Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Et bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, faire sans train, sans métro, sans école, c'est pour cette semaine. Jeudi noir en perspective contre la réforme des retraites. Parole d'usagers et de syndiqués dans un instant, puis la parole d'un ministre du gouvernement chargé de l'économie et des finances dans 20 minutes.
Bruno Le Maire, oui, l'invité du grand entretien de la matinale aujourd'hui. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Posez-les au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Encore un week-end dramatique dans le sud-est à cause des pluies et des inondations. 5 personnes, dont 3 secouristes, sont morts hier. Certaines communes ont été touchées 2 fois en l'espace d'une semaine. L'alerte est levée ce matin. Dans ce journal aussi, l'hommage solennel aux 13 militaires morts au Mali la semaine dernière. Le président malien au premier rang dans la cour des Invalides. La COP25 à Madrid, les mots sont toujours aussi forts, les actions toujours aussi faibles. Et le retour de Renaud, 17e album pour les enfants, mais pas seulement.
France Inter.
Ceux qui ont vécu les grèves de 95 se souviennent d'avoir beaucoup marché pour aller manifester contre la réforme des régimes spéciaux de retraite pour les uns, pour aller travailler et rentrer chez eux pour les autres. 3 semaines de grève en décembre, une réforme enterrée et un chapitre écrit dans l'histoire sociale du pays. Décembre 2019 sera-t-il du même tonneau? La CGT, FO Sud, la FSU et Solidaire en rêve. Pour le gouvernement, ce serait plutôt un cauchemar. Comme pour les usagers de la SNCF, à 3 jours du début d'une grève reconductible, Delphine Evenou a fait le voyage avec les navetteurs du Le Mans-Paris, ceux qui prennent le train tous les jours pour aller travailler.
Sur le quai de gare, les mallettes sont plus nombreuses que les valises. Chaque jour, ils sont 1 millier à faire le trajet entre Le Mans et Paris. Ordinateur ouvert, air sérieux, David, employé de banque, optimisme à toute épreuve.
Je vais tenter de monter à Paris et de redescendre ensuite sur Le Mans, si c'est possible. Ils ont priorisé des trains, donc je vais m'orienter sur un des deux le matin et un des deux le soir.
Au wagon-bar du TGV, Jérémy, plus réaliste, penche plutôt pour du télétravail, mais ses options restent ouvertes.
On peut aussi voir avec notre employeur pour éventuellement une nuit d'hôtel ou pour essayer de limiter l'impact sur le travail.
À côté de lui, Elisabeth s'agace déjà du mouvement de grève avec sa sœur. Cadre, elle doit venir au siège social de son entreprise à Paris tous les jeudis. Pas de chance.
On a prévu tous ensemble de travailler en télétravail et de faire des conférences téléphoniques.
Et puis il y a les plus radicaux. Bertrand, analyste, a posé 1 jour de congé. Mais si le mouvement dure, ce sera plus compliqué.
Alors moi, je commence une activité, donc j'ai pas beaucoup de journées de congé à poser. J'ai pas de visibilité pour la suite. Là, c'est l'inconnu qui m'attend en termes de transport.
Quelle que soit l'ampleur de la mobilisation, Sylvie, 20 ans de navette, sera attentive.
Notre abonnement TGV sera en cours, donc on verra si on a des compensations. Voilà, on sera en attente de ça.
SNCF Voyage promet un dédommagement pour les abonnés les jours où moins d'un TGV sur 3 circulera.
Les SNCF annoncera ses premières prévisions demain à 17h. Pendant ce temps-là, le gouvernement laisse venir tous les ministres autour d'Édouard Philippe à Matignon hier soir pour rappeler les fondements de cette réforme des retraites, voir comment on peut l'améliorer et accompagner les Français pendant la grève, a dit le Premier ministre, dont on attend des annonces concrètes à la mi-décembre, notamment sur la date d'entrée en vigueur du nouveau système, ce qui prouve bien qu'il y a un loup pour les syndicats, Laurent Kramer.
Le gouvernement souhaiterait semer le doute et mobiliser lui-même contre sa réforme qu'il ne s'y prendrait pas autrement, souligne Yves Verrier, numéro 1 de Force Ouvrière.
C'est très significatif, cette façon d'essayer de temporiser de la part du gouvernement, puisqu'on dit, rassurez-vous, vous ne serez pas touchés. C'est donc bien que le futur régime ne sera pas aussi favorable. L'argument du gouvernement, d'une certaine manière, se retourne contre lui-même. On voit bien que le gouvernement a compris que son projet ne recueillait pas l'assentiment de la population, loin s'en faut.
En décidant d'attendre la mi-décembre, selon l'ampleur de la mobilisation, quelques annonces pour amender sa réforme, le gouvernement joue clairement le bras de fer avec les syndicats, estime de son côté Sébastien Mariani à la CFDT Cheminots.
Ce qui nous paraît encore plus surprenant, c'est que le gouvernement semble vouloir prendre des mesures de transition puisqu'il les a annoncées pour la mi-décembre. Mais si ces mesures, il les a en vue, pourquoi ne pas essayer de les donner avant pour désamorcer le conflit? Ça peut coûter cher en fait, ce scénario-là, psychologique d'un conflit dont on ne sait pas à quoi il pourra conduire parce que, de fait, la cristallisation elle ne se fait pas que sur le sujet des retraites.
Sans véritable porte de sortie en cas de forte contestation, le gouvernement ne veut pas comprendre que l'inquiétude des Français dépasse la simple réforme des retraites. retraites, souligne de son côté la CGT.
Voilà, rien à voir avec la réforme des retraites. Effectivement, les patrons du bâtiment contre la hausse de la fiscalité sur le gasoil non routier bloquent 4 dépôts pétroliers dans l'Ouest depuis vendredi, ce qui commence à se faire ressentir dans les stations-service. Le préfet du Finistère, hier, en a réquisitionné un certain nombre pour les véhicules prioritaires. Les représentants du BTP ont rendez-vous à Bercy ce matin.
Il est 8h06, Florence, c'est encore un week-end meurtrier qui s'achève dans le sud-est.
5 morts hier dans le Var et près de Marseille. Bilan de cette deuxième vague de pluie diluvienne qui a fait déborder les cours d'eau, inonder des quartiers de Cannes, de Mandelieu, de Fréjus, fait patauger comme la semaine dernière les habitants de Puget, de Roquebrune-sur-Argence comme ceux du Muy. 3 des victimes sont des secouristes. Leur hélicoptère a quitté Marignane dans la soirée en direction du Var avant de disparaître des radars. Ils ont été retrouvés tout près de la commune du Rove où vous vous trouvez, Émilie Briffaut.
Oui, cet appareil décolle vers 22h30 hier soir de la base de Marignane, direction le Luc, dans le Var, pour une mission de reconnaissance et de sauvetage. Mais très rapidement, les liaisons radar et radio se coupent. Après d'importantes recherches, l'appareil et les 3 corps sont finalement retrouvés vers 1h30 sur la commune du Roc, dans le massif de la Nerthe, au nord de Marseille. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que cet appareil et l'équipage, le pilote, un mécanicien et un secouriste du 10 des Bouches-du-Rhône étaient intervenus un peu plus tôt dans la journée pour des opérations d'élitreuillage à Pertuis, cette commune du sud Vaucluse, fortement touchée elle aussi par les intempéries. On ignore pour l'instant les causes de ce crash. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, salue ce matin le courage et l'engagement exceptionnel de ces 3 hommes tombés en mission. Un dramatique accident le jour même où la France s'apprête à rendre hommage à 13 soldats morts au Mali.
Émilie Briffaut de France Bleu Provence. Les écoles maternelles et primaires seront fermées aujourd'hui à Fréjus et dans certains quartiers de Roquebrune. Idem pour Cannes et Mandelieu avec les lycées fermés en plus là-bas. Images et bilan de ces intempéries à voir sur franceinter.fr. Faut-il attribuer ces nouvelles inondations au changement climatique dont il sera question pendant 2 semaines à Madrid, ouverture de la COP25 et toujours le même message, agir vite et fort pour limiter le réchauffement de la planète qui commence à ressembler à une malédiction. Les émissions de gaz à effet de serre ne baissent toujours pas dans le monde malgré les appels répétés à tout changer. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous vous apprêtez à suivre cette COP25 pour France Inter, Sandy. On l'entend encore, on l'attend, on attend des phrases lapidaires dont on se demande si elles auront le moindre effet.
Oui, juste avant l'ouverture de cette COP, le secrétaire général des Nations Unies a employé un ton grave. Nous sommes dans un trou profond et nous continuons de creuser. Bientôt, nous ne pourrons plus en sortir. Antonio Guterres accuse, sans les nommer, les gros pays émetteurs de ne pas faire leur part, mais il tente surtout de motiver les troupes.
Depuis des décennies, l'espèce humaine est en guerre contre la planète. Et la planète rend coup sur coup. Nous devons mettre fin à notre guerre contre la nature et la science dit que nous pouvons le faire.
Cet appel du secrétaire général de l'ONU, Sandy, a-t-il la moindre chance d'être suivi des faits ?
Eh bien, on ne s'attend pas à de nouvelles annonces importantes des États pour réduire leurs émissions de CO2 ici à Madrid, parce que l'accord de Paris sur le climat prévoit que les signataires ont jusqu'à l'année prochaine, novembre 2020, pour soumettre de nouveaux plans climat plus ambitieux. Face à l'urgence, 70 pays ont déjà promis de faire plus d'efforts, les îles Marshall, les Bahamas, le Maroc et encore la France. Mais parmi eux, il n'y a pas les gros émetteurs, la Chine, les États-Unis, l'Inde. Ces 3 pays ne seront d'ailleurs pas représentés au plus haut niveau de l'État ce matin à la cérémonie d'ouverture. Finalement, la visite qui suscite le plus d'espoir ce matin à la COP25, c'est celle de la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle ambitionne de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. On verra si l'Europe peut reprendre le leadership dans la diplomatie climatique.
Sandy Dauphin, merci à suivre avec vous donc cette COP25 à Madrid.
13 soldats, Florence, 13 cercueils dans la cour des Invalides.
Hommage solennel aux militaires morts au Mali la semaine dernière. Leurs hélicoptères entraient en collision alors qu'ils pourchassaient des djihadistes. Emmanuel Macron fera leur éloge devant 2500 personnes. Un moment capital pour le lieutenant-colonel Karl Flambry, chef en second du régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Il a perdu 7 de ses hommes.
Ça représente un hommage suprême, c'est-à-dire de ressentir le poids de la compassion de la nation envers les militaires, envers ces hommes et ces femmes qui sont engagés en opération au nom du pays. Et donc cet hommage est considéré vraiment comme une contribution ultime face aux exigences de notre métier. C'est un besoin très fort du régiment de rendre un dernier hommage à nos camarades devant le cercueil.
Est-ce que ça donne aussi de la force, du courage, de l'allant à ceux qui sont encore au Mali ?
Oui, bien entendu. D'ailleurs, ils ont la délicate mission de se remettre rapidement, je veux dire, en ordre de bataille, parce que la mission là-bas sur place continue. Et donc, il faut redonner du sens à la mission qu'ils mènent. Ils vont s'y atteler dans les jours qui suivent.
Le lieutenant-colonel Karl Flambry au micro de Faustine Calmel dans la cour des Invalides pour cet hommage de la nation. Nous verrons les présidents Hollande et Sarkozy. Le président malien sera présent lui aussi pour exprimer la solidarité de son pays. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter à Bamako. Valérie, vous avez rencontré le président Ibrahim Boubacar Keïta juste avant son départ pour Paris.
Ibeka a inauguré la biennale de la photographie africaine de Bamako, qui est un grand événement culturel au Mali et sur le continent. Il a été beaucoup question du contexte sécuritaire à la cérémonie d'ouverture et c'est là que nous avons croisé le président malien.
Le Mali est un pays d'honneur. Le Mali est un pays de mémoire. Le Mali est un grand pays de gratitude et nous savons gré à ces jeunes gens fauchés dans la fleur de l'âge pour la défense de valeurs qui nous sont communes. Ils sont morts à la poursuite de ceux qui ont tué nos enfants à Indiliman. Et voudriez, madame, que ces jeunes gens-là fussent conduits à leur dernière demeure sans présence malienne? Non, nous serons aux côtés de nos amis français. Les familles françaises aux Invalides.
Ibrahim Boubacar Keïta fait allusion au massacre d'Indeliman qui a coûté la vie à 49 soldats maliens. C'était le 1er novembre dans le nord-est du pays. L'attaque de leur camp a été revendiquée par l'État islamique au Grand Sahara, qui est l'un des groupes qui se base sur le territoire malien, mal équipé, mal entraîné. L'armée malienne paye un lourd tribut dans cette guerre contre les djihadistes. Il y a des morts quasiment tous les jours, à tel point qu'il est difficile de chiffrer le nombre total de victimes. Et certaines voix se font entendre ici au Mali pour déplorer le fait que le président Ibeka soit plus prompt à rendre hommage à des militaires français qu'à ses propres soldats. Les cérémonies sont en effet rares au Mali pour commémorer ceux qui sont tombés au combat.
Valérie Crova en direct de Bamako avec Benjamin Thuot. Et dans cette zone du Sahel où la France est engagée, la situation est de plus en plus préoccupante au Burkina Faso, où au moins 10 fidèles, dont des enfants, ont été tués hier dans l'attaque d'une église protestante dans l'est du pays. Ces attaques attribuées à des groupes djihadistes contre des lieux de culte chrétien se sont multipliées ces derniers temps au Burkina Faso. Pas de navire français pour les gardes-côtes libyens. La France renonce à sa livraison de 6 bateaux de 12 mètres. La situation en Libye ne permet pas de réaliser ce don, a justifié le ministère des Armées. Ce que c'est que d'être aimé, trop d'étiquettes, figurez-vous, pour certains candidats aux municipales. Les sortants, en l'occurrence, courtisés à la fois par les Républicains et par La République En Marche, ils ont décidé, pour certains, de soutenir les mêmes candidats. Certains dénoncent donc une trahison de leur famille politique, quand d'autres se réjouissent de faire consensus, Cécilia Arbona.
On pourrait appeler ça la technique de la ventouse. Dans les villes où le maire sortant, Les Républicains, est bien placé pour rempiler, le parti de la majorité appose son label approuvé par La République En Marche. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, a été le premier à recevoir cette double étiquette.
Pour moi, c'est pas de l'opportunisme. Moi, j'y vois une très grande cohérence par rapport à ce qu'on fait depuis 6 ans. Une équipe où la moitié des membres n'appartiennent à aucune formation politique.
Situation inversée à Rouen. Les Républicains suivent les marcheurs, ils ignorent superbement le candidat maison, Jean-François Bure, vice-président LR du conseil départemental de Seine-Maritime.
Moi, ça me pose un problème majeur. La droite disparaît en fait des radars d'une métropole de 500 000 habitants pour quelques places sur une liste.
À Saint-Germain-en-Laye, la machine à soutien s'est emballée un peu vite. Arnaud Péricard, maire d'Hiver Droite, n'a pas encore dit s'il se représente, que déjà les macronistes l'encouragent.
Tout serait ridicule, laissez-nous gérer nos villes comme bon nous semble, voilà, que les formations politiques nous fichent la paix.
Attention aux effets indésirables de la superposition de soutien. Elle peut entraîner des irritations chez les candidats qui n'ont rien demandé et des phénomènes de rejet dans leur électorat.
Cécilia Arbona, qui pour le Ballon d'Or décerné ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris? On dit Léo Messi, on dit Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou Virgil van Dijk. Voilà, on verra ça ce soir donc au Théâtre du Châtelet. Enfin, pas pas de Roudoudou ni de Mistral gagnant, hélas, mais on ne peut pas toujours refaire des chefs-d'œuvre. Le 17e album de Renaud est sorti ce vendredi, intitulé Les Mômes et les Enfants d'abord. C'est un disque dédié aux enfants, certes, mais pas seulement, Mathieu Culeron.
J'aime pas mon père, il est trop sévère.
Détrompez-vous, public chéri, ces chansons ne sont pas toutes pour les marmots, c'est sûr, je chante l'enfance et la mienne en prums, mais il y a pas mal de gros mots. Voilà l'avertissement écrit de la main de Renaud sur ce dernier disque. Faute de français, nostalgie de l'enfance, rien de très nouveau pour le chanteur au bandana rouge, comme le souligne Fabien Lecoeuvre, auteur de la véritable histoire des chansons de Renaud.
Quand vous écoutez son œuvre musicale, et le dernier album en est encore la preuve, hein, il a entre 14 et 19 ans dans l'écriture, dans la manière de regarder les choses, la vie, même s'il a été blessé. Tous ses précédents albums sont des disques pour les enfants. Parce qu'il y a des refrains, des gimmicks, des tatatins, c'est très enfantin tout ça finalement.
Dans ton nom, il y a deux ailes. Tu me demandes pourquoi ?
Dans Les Mômes et Les Enfants d'abord, Renaud parle de ses copains, de la récré, mais aussi des voyous qui ont mis le feu à l'école.
J'en foutrais des coups de matraque pour leur apprendre un peu.
Renaud n'essaye plus de dissimuler sa voix cabossée, il s'expose tel qu'il est, comme un écho lointain d'une carrière consacrée à l'enfance et à l'indignation.
C'est le réveil et je m'agne, je vais encore être à la bourre. Pour l'école qui est un peu le bagne, puis j'ai au moins 7 heures de cours cette année.
Renaud pour les enfants, bah nous on a Oli, c'est bien aussi. Mmh. Hein,
oui,
pour
le les podcast. Coucher, voilà. Oui, ouais, le podcast, c'est ça, voilà. Une histoire et Oli. Ouais. Merci Florence Paracuelos, la météo Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué. Libre par nature.
Marie-Pierre, c'est une belle accalmie.
Et oui, l'anticyclone commence à s'installer sur l'Europe et les intempéries sont chassées, mais les précipitations d'hier traînent encore un peu sur l'extrême sud-est et toujours trois départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, placés en vigilance orange cru. Il faut savoir que depuis le 1er novembre, vers Fréjus, il est tombé l'équivalent de 5 mois et demi de pluie. Alors ce matin, des Pyrénées aux Alpes, on a encore des nuages, quelques ondées vont persister avec de la neige des 500 mètres d'altitude sur le massif central. Puis dès ce matin, au nord de la Loire, c'est du soleil, mais la bise de nord accentue le froid avec de fortes gelées après la dissipation des brumes quelquefois résistantes au nord de la Seine et puis quelques ondées aussi près de la Manche. Après vous aurez du soleil. Au plus bas il fait moins 3 à Valenciennes, moins 2 à Beauvais, moins 1 à Metz. Contraste avec les 12 dans le Var à l'île de Levant. Vous vous réveillez avec un petit degré à Paris comme à Tours. Il fait 6 à Lyon et 8 à Biarritz.
Un lundi après-midi plus ensoleillé.
Et oui, autour de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane vont finir par chasser les nuages, excepté encore en Corse où une averse sera possible dans l'après-midi. Et puis des Pyrénées aux Alpes, vous aurez encore quelques averses, de la neige des 500 mètres sur le massif central et les Alpes. Et au nord de la Loire, le soleil va s'imposer dans une ambiance donc hivernale avec des valeurs largement inférieures aux normales saisonnières. Au plus bas, on attend 3 à Langres, 4 à Nancy, 6 à Aurillac et à Argenton-sur-Creuse, pas plus de 7 à Paris, à Lyon, Bordeaux ou Bayonne, 12 à Marseille, comptez 14 à Perpignan et 18 à Ajaccio.
Marie-Pierre Planchon, merci.